France Culture.
Les sœurs Chimus et Koivé Oufflarta sont présents au festival No Border qui se déroule en ce moment à Brest. Et quel beau festival, n'hésitez pas à aller faire un tour. Tout ce que vous avez écouté se retrouve assez facilement sur différentes plateformes, essentiellement sur Bandcamp. On vous encourage à justement encourager tous ces artistes. On remercie très chaleureusement la merveilleuse et fine équipe de la discothèque musicale de Radio France, en particulier Pierre Plantin et Stéphanie Leroy, qui nous ont aidés dans des délais extrêmement courts à vous permettre d'entendre ces artistes dans la qualité qu'ils méritent. Merci à Thomas Jost, le réalisateur de cette émission, à Laura Dutèche-Pérez, sa merveilleuse attachée de production, ainsi qu'à Mineta Jawara qui était aux platines aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner évidemment au podcast de la série musicale pour y retrouver toutes nos émissions sur les nouvelles scènes qui nous passionnent le plus, ou notre série Diva et les Divas Celtiques. À la semaine prochaine.
Vous écoutez France Culture.
Les éditions Radio France présentent
Quand les dieux rôdaient sur la terre,
un livre de Pierre-Judé de la Combe et Christiane Donati.
Dans ce deuxième volume, nous zonerons sur la Terre, parmi les redoutables Amazones, les indomptables Cassandre, Andromaque ou Hélène. Nous découvrirons l'incroyable destin des Danaïdes et la vie tumultueuse d'Héraclès, Achille, Ajax. Des histoires d'errance, d'exil, de grandes souffrances, mais aussi de succès et de rire.
Quand les dieux rôdaient sur la Terre, un livre France Inter.
Vous écoutez France Culture et il est ma foi fort tôt, 17h59, mais c'est bientôt l'heure de retrouver le très grand Arnaud Laporte et ses très grands invités. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir, j'ai apprécié que vous laissiez la résonance.
Et c'est ça, car nous sommes des personnes de son.
C'est magnifique.
Qui recevez-vous? Qui avez-vous la chance de recevoir?
Ma chère Zoé Sfez, nous allons passer près de 2 heures en compagnie de Fatou Diom et de ses invités. Côté live musique qui vous intéresse toujours, évidemment, mais pas seulement.
Évidemment.
C'est Barbara Forsne qui l'assurera. Pour en savoir plus, vous restez, vous le savez, à l'écoute, car il est déjà, 18h. L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Les organisateurs d'un marathon en Iran arrêtés par les autorités pour indécence après la participation de nombreuses coureuses non voilées à cet événement. Une obligation de moins en moins respectée par les iraniennes au sein de la République islamique. Nous irons en Syrie où près d'un an après la chute de Bachar el-Assad, les Alaouites occupent toujours les maisons des Syriens ayant fui le régime. Puis à Londres où la vitrine des joyaux de la couronne britannique a été recouverte de crumble lors d'une action de désobéissance civile. Enfin, la France insoumise n'acceptera jamais l'entrisme religieux mis au point de Jean-Luc Mélenchon. Auditionné cet après-midi par la commission d'enquête parlementaire sur les supposés liens entre mouvements politiques et réseaux islamistes. Porter le voile, y compris pour courir un marathon. C'est ce qu'impose la loi iranienne aux femmes depuis 4 décennies. Or, hier, lors du marathon de Kish, au sud du pays, plusieurs participantes ont couru les cheveux découverts, suscitant l'ire du clergé et des conservateurs. Siavosh Ghazi, les autorités iraniennes ont arrêté 2 organisateurs de l'événement sportif pour indécence.
Quelques 5000 personnes, dont plusieurs centaines de jeunes iraniennes, dont beaucoup sans voile, ont participé au marathon, un événement sans précédent dans le pays. De nombreuses vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, très populaire en Iran, montrant des jeunes filles et garçons en train de courir. Avant le marathon, plusieurs concerts publics avec la participation de plusieurs centaines de personnes, notamment des jeunes filles sans voile, ont été organisés sur l'île. Selon le procureur général de Kish, la manière dont l'événement s'est déroulé viole les règles en vigueur, une nouvelle controverse qui ravive les tensions autour du port obligatoire du hijab islamique. Le chef de la justice a affirmé il y a 2 jours qu'il fallait accentuer la pression pour faire respecter le voile, alors que le président Pezeshkian s'y oppose. Ces dernières années, en particulier depuis le mouvement de protestation qui a suivi la mort en prison de Mahsa Amini en 2022, arrêtée pour mauvais respect du voile, on voit de plus en plus de femmes, les cheveux en l'air, ou encore portant des vêtements légers avec le nombril apparent.
Siavosh Ghazi, correspondant de France Culture à Téhéran. Il y a près d'un an, une coalition de rebelles islamistes lançait une offensive éclair en Syrie, provoquant la chute de Bachar al-Assad et la fin de 50 années de dictature, dont 14 de guerre civile. Depuis le 8 décembre 2024, près de 3 millions de familles déplacées par la guerre ont fait le choix de rentrer dans leur ville d'origine. Or, à leur retour, nombre d'entre elles font face à des logements occupés et à des terres expropriées le plus souvent par des familles alaouites, minorités accusées d'être liées au clan Assad. Comme à Mohammiyeh, dans la Ghouta occidentale, ces expropriations participent à la montée des tensions intercommunautaires. Reportage de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin.
De l'autre côté d'un barbelé, deux hommes regardent les étendues de terre qui ont un temps appartenu à leurs grands-parents. 40 années qu'elles ont par l'ancien régime été expropriées, des milliers de familles alaouites s'y sont depuis installées.
Ce sont tous des supporters de l'ancien régime. Voler la terre d'un être humain, c'est pire que de voler son âme.
À Mohammiyeh, ville historiquement révolutionnaire, les expropriations, affirment les habitants, concernent 83% des terres. Cela, à l'époque, pour loger les familles d'officiers et construire des infrastructures militaires.
Le régime a fait ça partout, tout autour de Damas, pour que si jamais une révolution éclate, comme ce fut le cas, ils puissent nous assiéger.
Tout autour du quartier informel de Somoliyeh, une clôture a été érigée il y a une dizaine de jours par les autorités. Officiellement, pour séparer les familles alaouites des logements des nouveaux officiers, les habitants, eux, n'y croient pas.
C'est pour nous compliquer la vie, pour qu'on quitte nos maisons de nous-mêmes.
La plupart des habitants ne disposent pas d'actes de propriété, craignent d'être délogés, voire de subir des représailles.
Cet été, des hommes sont venus en nous disant que c'était des terres qui appartenaient aux familles de Mohammiyeh. Ils criaient, ils essayaient de nous dégager, ils avaient des armes, ils sont entrés dans nos maisons.
Pour calmer les tensions, le gouvernorat de Damas a affirmé que personne ne sera expulsé tant qu'une solution de relogement n'aura pas été trouvée.
Un reportage de Manon Chaplin. De nouvelles pluies torrentielles s'abattent sur le Sri Lanka ce samedi et menacent dorénavant l'Indonésie. Une semaine après les inondations et glissements de terrain provoqués par les tempêtes tropicales et moussons qui ont entraîné la mort d'au moins 1800 personnes. Le nombre de victimes pourrait augmenter en raison de la famine qui menace les régions les plus reculées. Le président sri-lankais en appelle à l'aide internationale face à ce qu'il qualifie de cataclysme naturel le plus grave jamais connu par son pays. À la veille d'élections législatives à Hong Kong, élections où seuls les candidats patriotes, c'est-à-dire pro-Pékin, sont autorisés à se présenter, les électeurs ne devraient pas se bousculer dans les isoloirs. 10 jours après l'incendie meurtrier de 8 tours d'habitation qui a fait au moins 159 morts, le pouvoir chinois entend étouffer les critiques. L'Agence de sécurité nationale chinoise a ainsi convoqué les représentants de plusieurs médias internationaux, dont l'agence France Presse, accusant certains d'entre eux d'avoir diffusé de fausses informations et diffamé le gouvernement. Parallèlement, les autorités ont ordonné la dissolution du principal syndicat étudiant après que celui-ci a affiché des messages réclamant justice pour les victimes de l'incendie de Taipo. Après une nouvelle attaque massive de drones russes la nuit dernière sur des sites énergétiques ukrainiens privant de chauffage des milliers de foyers, les négociateurs ukrainiens et américains se retrouvent aujourd'hui en Floride sans les Européens. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, met une nouvelle fois en garde contre un processus perçu comme favorable à Vladimir Poutine. Alors pour tenter de peser et de faire pression sur la Russie, eh bien Emmanuel Macron se rendra à Londres lundi pour une rencontre avec ses homologues britanniques, allemands et ukrainiens afin de réitérer son soutien indéfectible à Kiev, assure le chef de l'État dans un communiqué. Londres, où 4 personnes ont été arrêtées par la police britannique pour avoir jeté aujourd'hui du crumble aux pommes et de la crème anglaise sur les bijoux de la couronne britannique. La scène s'est passée ce matin à la Tour de Londres, action revendiquée par un groupe de désobéissance civile, le groupe Take Power Back. Emeline Vin.
4 visiteurs habillés de noir lancent une boîte de crème anglaise et un crumble sur la couronne impériale, le plus symbolique des joyaux de la Tour de Londres. En anglais, crumble désigne le gâteau mais aussi l'effritement. Alors que les vigiles appellent la sécurité, 2 jeunes personnes s'écrient
« La démocratie s'est effritée. Les personnes sans-abri meurent dans la rue. C'est la période la plus dangereuse de l'année pour elles. Et pendant ce temps, les riches amassent de l'argent. C'est écœurant. »
Notre pays ne fonctionne plus. Nous venons aujourd'hui devant les joyaux de la nation pour reprendre le pouvoir.
Take Back Power, reprenons le pouvoir, est un tout nouveau groupe de désobéissance civile lancé cette semaine. Il réclame l'établissement d'une assemblée citoyenne et la taxation des plus fortunés. Mercredi, quelques membres avaient déposé des kilos de crottins devant le sapin de Noël du Ritz, un palace londonien, pour dénoncer les inégalités. Les 4 personnes interpellées ce samedi pourraient être poursuivies pour dégâts criminels et risquent l'incarcération. L'année dernière, 2 éco-activistes ont été condamnés à 20 et 24 mois de prison pour avoir jeté de la soupe de tomates sur le tableau Les Tournesols de Vincent Van Gogh.
Après Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon a été auditionné cet après-midi par la commission d'enquête parlementaire sur les liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes. Initiative du patron des députés LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, rallié par plusieurs députés d'extrême droite qui vise directement l'avance la France insoumise accusée de communautarisme, bien qu'il ne soit plus député ni responsable du mouvement. Jean-Luc Mélenchon a accepté l'invitation et répondu aux questions des députés dans une ambiance, une fois n'est pas coutume, très polissée. Marie Mollet.
Oui, que d'amabilité échangée dans ces presque deux heures d'audition entre le président LR de la commission, Xavier Breton notamment, et Jean-Luc Mélenchon.
Cette commission ne vise pas un parti en particulier. Nous ne sommes pas un tribunal, donc nous n'accusons pas telle ou telle personne. Il faut être très clair.
Ah, voilà qui est bien.
Le leader insoumis qui, au départ, entendait boycotter cette commission, il l'a rappelé, mais est finalement venu pour l'éclairer, dit-il, de ses lumières sur l'histoire de la laïcité, avant de reconnaître l'existence de la menace d'un entrisme islamiste, mais pas chez lui, à LFI. Cette commission même, dit-il, le blanchit.
Les responsables de services de renseignement du pays que vous avez entendus, j'ai lu les comptes rendus, aucun ne dit qu'il y a un lien entre nous et les islamistes. Ils disent même le contraire.
Mais sur le fond, le leader insoumis ne recule sur aucune position, justifie son refus d'interdire le voile pour les petites filles ou relativise la présence de certaines personnalités islamistes aux côtés d'élus LFI dans des manifestations pro-palestiniennes.
Alors il peut se trouver qu'à certains moments, on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. De même, je me suis trouvé moi des fois dans des manifestations avec des uluberlus. Regarde le mariage pour tous, ils y étaient tous. Et là, vous étiez tous avec des islamistes, ça vous a pas dérangé.
Jean-Luc Mélenchon, qui s'est aussi défendu de tout clientélisme, quand certains de ses adversaires lui reprochent des complaisances pour tenter de séduire un électorat musulman.
Marie Mollet, et après Jean-Luc Mélenchon, c'est Gérald Darmanin qui a été auditionné. Le garde des Sceaux a annoncé l'envoi d'une circulaire à la veille des élections municipales pour lutter contre les fake news. Le Téléthon se termine ce soir après 30 heures de mobilisation et d'appel aux dons. Quelques 37 millions d'euros ont d'ores et déjà été collectés pour soutenir la recherche contre les 7000 maladies génétiques rares dont souffrent 3 millions de personnes en France. L'année dernière, plus de 96 millions d'euros avaient été récoltés. La météo de demain avec un dimanche pluvieux mais doux. Une nouvelle perturbation traversera dès cette nuit la moitié nord du pays, apportant des pluies soutenues demain matin sur la Normandie, l'Île-de-France et le centre, puis de la Champagne à la Bourgogne-Franche-Comté. Le ciel restera nuageux sur le sud-ouest et aux abords de la Méditerranée avant de se dégager dans l'après-midi. Comptez 6 à 11 degrés demain matin et seulement 1 à 4 sur la Provence et le Languedoc. C'est la fin de ce journal préparé avec Alix Forgeau, Mineta Diawara à la technique.